B. La voie de la pleine présence du point de vue des sciences contemplatives. Nous allons considérer trois situations qui sont celles dans lesquelles nous sommes habituellement. Au début de la voie, puis au cours du cheminement, et finalement dans l'ultime expérience résultant de la pratique. Au début de la voie, la conscience habituelle et son modèle cognitif. Le modèle cognitif de la conscience habituelle. Nous allons commencer par essayer de modéliser la conscience habituelle. Comment nous représenter simplement notre état de conscience habituel, l'état dans lequel nous vivons habituellement la vie quotidienne, dans lequel nous sommes tout le temps. La conscience n'est pas une chose, une entité, mais un processus cognitif dans lequel je suis conscient de quelque chose. Nous pouvons nous représenter ce processus cognitif sur le modèle centre-périphérie, dans lequel il y a le moi-sujet au centre, et tout autour, à la périphérie, toutes les expériences que je vis, toutes les choses, tous les objets de connaissance que moi-je expérimente. Nous avons ainsi deux pôles, sujet-objet, ou centre-périphérie, avec le sujet qui est central et les expériences de toutes choses qui sont disposées tout autour à la périphérie. Entre les deux pôles sujet-objet, les relations se constituent comme différentes polarisations qui peuvent être d'attraction, de répulsion ou même d'indifférence. Ce modèle centre-périphérie de la conscience habituelle va nous aider par la suite pour comprendre la pratique. Une remarque très importante est que les deux éléments que sont le centre et la périphérie, moi et mon monde, ne sont pas deux entités séparées et indépendantes. Dans la conscience, centre et périphérie, moi et mon monde, moi et autre, dépendent l'un de l'autre. Ils se posent dans leur relation, leur polarisation, en se déterminant réciproquement l'un par rapport à l'autre. Dit autrement, le sentiment de moi se pose dans l'expérience du monde autre qui l'entoure. Les expériences de moi et de mon monde sont interdépendantes, elles se posent dans leur interrelation. En phénoménologie, on parle de cette relation en termes d'intersubjectivité. L'interdépendance du moi et de son monde. Quand nous parlons de l'interdépendance de moi et de mon monde, nous ne disons pas que c'est moi et mon esprit qui produisent le monde, ce qui serait très narcissique et présomptueux, mais nous disons que mon esprit produit ma version du monde, mon expérience du monde, ma représentation. Nous allons illustrer cette situation avec l'exemple de la cartographie. La métaphore de la carte et du terrain. Les outils de cartographie numérique sont de précieux outils contemporains qui vont nous servir pour illustrer le processus de représentation et de projection que nous venons de présenter. Dans la métaphore, la photo du terrain représenterait le réel auquel est surimposé différents calques qui interprètent le terrain naturel. Le terrain est, dans la métaphore, la photo du terrain vierge. Il est recouvert de calques qui surajoutant des formes, délimitant des espaces et des noms, qui sont ceux de villes, de routes ou de cours d'eau. Une carte se construit ainsi avec des formes et des noms qui interprètent le terrain et en créent une représentation conceptuelle. Les outils de cartographie partent du terrain vierge, puis surimposent des frontières, des indications de lieux, de routes, et certaines fois encore bien plus. L'ensemble finissant par offrir une carte. Du terrain vierge à la carte, différentes couches d'interprétation se sont surimposées et ont ainsi progressivement occulté le terrain vierge tout en l'interprétant. Dans l'état final de la carte, le terrain vierge a même complètement disparu. Il ne reste plus que son interprétation, sa représentation. Analogiquement, c'est ainsi que nos concepts, les noms et formes que nous projetons sur le terrain de la réalité, créent notre représentation de celle-ci, notre expérience du monde. À l'expérience première du terrain de la réalité se surimposent nos interprétations, nos représentations, nos projections. De fait, notre expérience habituelle est un mélange de perceptions directes du terrain et de représentations. Le terrain sous-jacent transparaît toujours, plus ou moins, au travers de la carte qui le recouvre et l'interprète. Mais plus les projections et les représentations sont opaques, denses et épaisses, moins le terrain transparaît. Dans ce cas, le processus de cartographie de la conscience habituelle ne perçoit plus que son interprétation du monde. Je ne perçois plus le monde réel, je ne perçois plus que mon monde, mon interprétation du monde. Ce processus d'interprétation ou de conceptualisation du terrain de l'expérience est la prise de conscience qui s'effectue dans et par la représentation conceptuelle. Cette prise de conscience est la saisie cognitive. C'est ainsi que ce que nous nommons la saisie cognitive projette sur le terrain de l'expérience la carte des formes et des noms qui créent notre monde de représentation, le monde virtuel dans lequel nous vivons habituellement. Ce système d'interprétation n'est pas mauvais. Il est même très utile et nécessaire car il nous permet de décrypter le monde et dans une certaine mesure de le contrôler. Mais il finit par créer des problèmes lorsque nous en venons à prendre la carte pour le terrain, c'est-à-dire lorsque nous en venons à prendre nos projections et nos représentations pour la réalité en soi. Prendre la carte pour le terrain est une illusion qui est source de bien des problèmes et de bien des difficultés, comme si nous prenions nos rêves pour la réalité. Dans le monde virtuel en développement, désormais, la carte peut même s'affranchir du territoire, voire le précéder, et dans une illusion encore plus intense, nous faire croire que le terrain pourrait se conformer à la carte. Cette illusion, ce simulacre, comme l'appelait Jean Baudrillard, peut conduire à de très graves conséquences psychologiques, écologiques et éthiques. La saisie cognitive. Comme nous venons de le voir, ma perception du monde, c'est-à-dire habituellement ma représentation ou conceptualisation du monde, se fait dans des saisies cognitives et conceptuelles. La conscience habituelle que nous avons des personnes et des choses dépend des représentations que nous nous en faisons, c'est-à-dire de comment nous les concevons. Nous avons ainsi tendance à ne pas percevoir les personnes et les choses comme elles sont, mais à les percevoir comme nous nous les représentons, avec les concepts, les idées préconçues que nous projetons sur elles. Ce processus dans lequel nous saisissons les personnes et les choses à partir de nos représentations et projections constitue l'aspect superficiel de la réalité, son aspect d'enveloppement de notre expérience habituelle. Un autre aspect plus subtil et profond de la saisie cognitive est sa fonction de création de la dualité sujet-objet. Non seulement la saisie cognitive détermine notre perception du monde, telle que nous venons de la décrire, mais elle structure aussi l'expérience dualiste sujet-objet dans laquelle nous vivons habituellement. Disons simplement que concepteur et conçu existent l'un par rapport à l'autre dans la conception. C'est ainsi que la saisie cognitive engendre la conscience duelle habituelle, sujet-objet. Mais comme nous allons le voir, au terme de la voie apparaît l'expérience sans saisie, l'expérience primordiale, c'est-à-dire qui préexistait, présente depuis le début, mais est voilée par les représentations adventices, comme l'a illustré la métaphore du dévoilement du paysage enténébré. La conscience habituelle et la saisie cognitive. Nous entendons par conscience l'expérience duelle sujet-objet habituel, dans laquelle nous sommes conscients de quelque chose d'autre. La conscience est ainsi toujours conscience de quelque chose, conscience d'objet sensoriel. Les choses que je connais habituellement dans ma conscience sont les résultats de ce processus cognitif de saisie dans lequel la cognition saisit les choses qu'elle expérimente comme objet et pose en même temps l'observateur, le sujet conscient qui les perçoit. La saisie cognitive projette à l'extérieur les objets observés et introjette à l'intérieur le sujet observateur. À ce point, nous pourrions élaborer un peu plus le modèle centre-périphérie que nous avons utilisé pour décrire la conscience habituelle en le transformant en un modèle tridimensionnel qui serait celui d'une sphère, d'une bulle. Moi-je vis habituellement dans une sorte de bulle, avec moi au centre et mes projections-représentations qui constituent mon monde virtuel tout autour. Nous qualifions ce monde de virtuel car il n'est pas vraiment réel, sa réalité est faite de représentations. En un mot, comme le dit l'expression triviale, nous vivons dans notre bulle, qui est plus ou moins opaque ou transparente. Moi et ma représentation de mon monde sont ainsi fabriqués par la saisie cognitive qu'est la conscience habituelle. Le programme du pilote automatique. À ce stade, il est utile de comprendre que nos projections et représentations sont induites, formées, formaté par les informations que nous avons enregistrées au fil de notre histoire personnelle. Nous avons tous hérité d'un passé qui nous constitue et nous modèle dans ce que nous sommes et vivons. Ce passé subsiste aujourd'hui sous forme de traces et de mémoires, d'empreintes inscrites dans notre génome, notre bagage culturel, notre langue, notre éducation, notre biographie personnelle ou notre environnement. Toutes ces informations qui nous habitent nous conditionnent. Elles modèlent, formatent ce que nous sommes dans notre personne et nos expériences. Ces informations conditionnent la conscience dans son expérience et sont une sorte de programmation du moi, de ses comportements et de ses relations. Elles induisent une propension fondamentale à expérimenter en mode duel, puis dans cette expérience duel, induisent toutes les relations susceptibles de se vivre dans la polarité sujet-objet de la conscience habituelle. Ces informations informent la conscience au sens philosophique, c'est-à-dire qu'elles lui donnent forme ou la prédisposent, la formatent. Ce que je suis et vis est le résultat de cette programmation de la conscience habituelle. Au niveau superficiel, cette programmation, qui est notre fonctionnement habituel, peut se dire le pilotage automatique, en référence au système de programmation qui permet le pilotage automatique d'un avion. En effet, dans ce mode de fonctionnement, nous ne sommes pas réellement présents et ne pilotons pas vraiment notre vie. Nous sommes dans un processus d'enchaînement de réactions automatiques et conditionnées, et à leur tour conditionnantes. C'est le contraire de la liberté, une forme de prédétermination, de déterminisme. Ainsi, le pilotage automatique est notre mode de fonctionnement habituel, dans lequel nous réagissons de façon conditionnée aux situations du quotidien. Nous sommes ainsi formatés par ces empreintes venant d'informations de notre passé et se manifestant sous forme de tendances, de pulsions et de projections. L'emprise du pilotage automatique peut être plus ou moins forte selon les individus et les circonstances, mais elle est toujours là, conditionnant le fonctionnement de la conscience habituelle dans sa carte du terrain. La direction à prendre est déterminée, tout est en quelque sorte préprogrammé. Le pilote automatique dirige notre conduite et notre manière d'agir et de penser. Néanmoins, et heureusement, la programmation de ces informations ne nous coupe pas complètement de la réalité. Elle nous coupe de l'expérience première, directe et immédiate, antérieure à toute représentation. L'expérience première est le lieu de la liberté, la programmation, celui de la détermination. Notre expérience est ainsi finalement toujours un mélange de détermination et de liberté. La carte voile le terrain, plus ou moins, et les informations qui conditionnent les actions sont plus ou moins fortes et déterminantes. Les informations forment la saisie cognitive et se forment en celle-ci. Les informations qui programment la conscience dans le processus du pilote automatique sont des empreintes qui ont été laissées dans le substrat de la conscience par les actions faites dans le passé. Plus une action fut intense dans la conscience, plus elle y a laissé une empreinte forte et prégnante. Pareillement, aujourd'hui, plus une action est intense dans la conscience, plus elle y laisse une empreinte forte et durable qui subsistera et sera susceptible d'induire ultérieurement une tendance correspondante. Dans une action, le sujet acteur, l'acte action et l'objet de l'action sont interdépendants en tant que sujet, relation, objet. L'intensité de leur existence et de leur relation est proportionnelle. Le sujet et l'objet ont une solidité proportionnelle à l'intensité de leur relation. L'intensité de la relation est aussi proportionnelle à l'intensité de l'information qu'il induit et à l'intensité de la saisie cognitive. Elle est aussi proportionnelle à celle de l'information induite par la relation, qui subsiste sous forme d'empreinte. Ainsi, dans l'interdépendance sujet-relation-objet, il y a une proportionnalité entre la solidité de l'expérience du sujet et de l'objet, l'intensité de la saisie cognitive et l'intensité de la relation entre le sujet et l'objet. De plus, l'intensité de l'action-relation est aussi proportionnelle aux empreintes, informations, tendances qui l'ont induite, et aux informations empreintes qu'elle induit et laisse et qui agiront sous forme de tendance. Les informations empreintes accumulées subsistent avec une capacité à induire des tendances, propensions, prédispositions, penchants ou affects qui s'actualiseront ultérieurement en actes lorsque les circonstances propices seront réunies. Tout ce processus peut être illustré par la métaphore de la germination et de la croissance des graines. Les actes passés sèment en quelque sorte des graines qui sont des informations qui subsistent, jusqu'à ce que ces graines rencontrent les circonstances propices, bonne terre, eau, chaleur dans notre exemple, qui leur permettent de germer et de croître. En bref, comme le dit le dicton, l'on récolte ce que l'on a semé, ce qui a une portée beaucoup plus profonde que la compréhension commune de l'expression populaire. La métaphore de la lecture radar du terrain par le pilote automatique. L'exemple du pilote automatique a ses limites car nous ne sommes jamais complètement conditionnés. Notre expérience est toujours un mélange de conditionnement et de liberté, de représentation et d'expérience première. Plus nous sommes sous l'emprise des conditionnements des empreintes passées, moins nous sommes libres. Et inversement, moins nous sommes sous l'emprise de ces empreintes, plus nous sommes libres. Un point très important consiste à comprendre que c'est l'état de pleine présence, l'état de suspension ou de diminution de la saisie cognitive, qui permet le désengagement, le débrayage des conditionnements et des automatismes du programme. Nous pourrions maintenant développer l'analogie de la conscience et de son pilotage automatique en disant que la conscience fonctionne comme une sorte de radar qui lit le terrain en l'interprétant. Le système radar qu'est la conscience examine le terrain et l'interprète, le compare avec des données mémorisées, qui sont ici un aspect des informations mémoire de notre passé, les empreintes latentes liées à nos expériences passées. Il utilise ensuite cette interprétation et ses représentations pour naviguer. Il fonctionne avec la carte qu'il a mémorisée, qui est utile et pertinente si elle est en adéquation avec le terrain, illusoire si elle est en inadéquation avec celui-ci. Mais dans tous les cas, la carte n'est qu'une représentation conventionnelle de la réalité du terrain. Et c'est le fait de prendre la carte pour le terrain qui, pour la conscience, constitue une illusion aliénante. Cet ensemble d'opérations que décrit l'exemple du jeu en pilote automatique, plus ou moins conditionné par ses informations dans son monde virtuel, est analogiquement le mode de fonctionnement de la conscience habituelle dans sa saisie cognitive. C'est l'étape initiale de la voie.